Chapitre 139. Des rideaux de neige balayent l'autoroute. Les véhicules qui circulent font vibrer les fenêtres du restaurant. Le café dans la tasse de Yona tremble. Il observe les deux hommes qui l'accompagnent. Leurs visages sont calmes et fatigués. Après lui avoir pris son téléphone, son passeport et son portefeuille, il semble maintenant attendre une quelconque directive. Une odeur de sarrasin et de lard frit flotte dans la salle. Yona consulte sa montre et constate que son avion quitte Moscou dans 9 minutes. La vie de Félicia s'éloigne avec les secondes qui s'égrènent. L'un des hommes essaye de résoudre un sudoku et l'autre lit les pages hippiques d'un quotidien de grand format. Yona tourne ses yeux vers la femme derrière le comptoir et pense à sa conversation avec Nikita Karpine. Avant que leur entretien soit interrompu, le vieil homme s'était comporté comme s'il disposait de tout leur temps. Il avait souri calmement pour lui-même, avait essuyé avec le pouce la buée sur la carafe et dit que Jurek et son frère jumeau n'étaient restés en Suède que 2 ans.
« Comment ça se fait ?» avait demandé Yona.
« On ne devient pas tueur en série pour rien.
Tu sais ce qui s'est passé ?»«
Oui. »
Le vieil homme avait laissé son doigt glisser sur le classeur gris et s'était remis à parler de l'ingénieur aux compétences pointues qui avait probablement envisagé de monnayer ses connaissances en Suède.
Mais la commission suédoise pour les étrangers ne s'est intéressée qu'au bras de Vadim Levanov. Ils n'ont rien compris. Ils ont envoyé un ingénieur en aérospatial de renommée mondiale travailler dans une carrière.
Ils savaient peut-être que vous le surveillez et gardaient prudemment le silence sur ses compétences, avait objecté Yona.
Le bon sens aurait été de ne pas quitter Leninsk. Il aurait peut-être écopé de 10 ans de travaux forcés, mais il pensait forcément à ses enfants.
« Raison de plus pour rester », avait rétorqué Nikita en croisant le regard de Yona. Les garçons ont finalement été expulsés de Suède, et Vadim Levanov ne les a jamais revus. Il a contacté toutes ses relations, sans succès. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il savait évidemment qu'il serait arrêté s'il revenait en Russie, et qui ne retrouverait jamais ses fils. Alors il les a attendus. C'est tout ce qui lui restait à faire. Il imaginait sans doute que si les garçons essayaient de le retrouver, ils reviendraient au dernier endroit où ils avaient vécu ensemble.
« Et quel était ce dernier endroit ?» avait demandé Yona.
Au même instant, il avait vu une grosse berline s'approcher du domaine.
« Les logements des travailleurs immigrés, appartement numéro 4. » C'est également là qu'il a mis fin à ses jours 30 ans plus tard.
Yona n'avait pas eu le temps de demander le nom de la carrière, car Nikita Karpine recevait de la visite. Une Chrysler noire étincelante s'était immobilisée dans la cour. La conversation était définitivement close. Sans montrer le moindre empressement, le vieil homme avait remplacé tous les documents sur la table relatifs au père de Jurek par des documents concernant Alexandre Pichouchkine, alias le tueur à l'échiquier, un tueur en série que Yona avait contribué à coincer. 4 hommes avaient pénétré dans la maison, s'étaient calmement avancés jusqu'à Yona et Nikita, leur avaient serré la main, poli, puis avaient parlé en russe un moment. Ensuite, 2 des hommes avaient emmené Yona dans la voiture noire, tandis que les autres restaient avec Nikita. Ils l'avaient fait monter à l'arrière. Un homme, à la nuque de taureau et aux petits yeux noirs, avait aimablement demandé à voir son passeport, puis avait également réclamé son téléphone portable. Ils avaient fouillé son portefeuille, appelé son hôtel et l'agence de location automobile. Ils l'avaient assuré qu'il serait ramené à l'aéroport, mais pas tout de suite. Ils attendent à présent installés à une table de la taverne. Yona boit une demi-gorgée de son café froid. Si seulement il avait son téléphone, il pourrait appeler Anya et lui demander de faire une recherche sur le père de Jurek Walter. Il y a forcément des informations quelque part concernant les enfants ou l'endroit où ils habitaient. Il réprime une forte envie de renverser la table, de se précipiter dans la voiture et de partir à l'aéroport. Il détient son passeport, son portefeuille et son téléphone portable. L'homme à la nuque de taureau tambourine légèrement des doigts sur la table tout en fredonnant tout bas. L'autre, cheveux en brosse couleur gris fer, a cessé de lire.
il envoie désormais des SMS. Dans la cuisine, on entend des bruits de vaisselle. Enfin, un téléphone sonne. L'homme aux cheveux gris se lève et s'éloigne de quelques pas avant de répondre. Un instant plus tard, il raccroche et annonce qu'il est l'heure de partir.